Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Des essais nucléaires d'ampleur, des essais de missiles à la portée de plus en plus importante, des déclarations de plus en plus vives de part et d'autre. C'est avec beaucoup d'inquiétude que le monde a suivi, dans la deuxième moitié de 2017, l'évolution de la crise nord-coréenne. Et puis il y a eu le jour de l'an, les vœux du leader nord-coréen Kim Jong-un, qui propose au Sud de discuter, une rencontre, le rétablissement de la communication directe et un accord pour participer aux prochains Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Bref, des signes de dégel entre les deux Corées. Mais faut-il croire à cette détente entre les deux frères ennemis? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Marianne Perrondoise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur ou chercheuse à l'INSERM, l'IRSEM, bien sûr, évidemment, je l'ai faite, comme tout le monde.
Ah oui.
L'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, spécialiste des questions stratégiques en Asie du Nord, et Théo Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut d'Asie Orientale à l'École Normale Supérieure de Lyon et à l'Université de Vienne. Ces discussions ont été décidées et tenues très rapidement dans le village symbole de Panmunjom, où l'armistice avait été signé en 1953. Pour les résultats que l'on sait, la participation du Nord aux Jeux Olympiques, un défilé commun, une équipe féminine de hockey sur glace commune, on l'a appris aujourd'hui, mais aussi et peut-être surtout le rétablissement des communications militaires. Avez-vous été surpris par la rapidité de la mise en place de ces décisions et de ces résultats, Marianne Perrondoise?
Raisonnablement, parce qu'on parle quand même de la Corée du Nord et on s'attend toujours à des rebondissements imprévisibles. Ceci dit, il fallait bien trouver une solution et puis casser le cycle de tensions et d'action-réaction qui avait été entamé, dont vous avez parlé pendant toute cette année 2017, avec un président américain très véhément et un jeune dirigeant nord-coréen non moins véhément, saluant chaque déclaration du président américain, chaque menace, par une salve de missiles. Donc, il fallait effectivement trouver un espace de dialogue. Et c'est finalement le président sud-coréen, Moon Jae-in, qui a réussi, je dirais, à arrêter ce cycle et à voir le leader nord-coréen répondre favorablement à une proposition qui avait quand même été réitérée plusieurs fois. Et rappelez-vous, qui avait fait l'objet d'un discours à Berlin en juillet. Donc il n'était pas surprenant de voir au fond Kim Jong-un s'empresser de tendre une main et d'ouvrir une porte qu'on avait laissée ouverte pour lui depuis un moment.
Avez-vous été surpris, vous, Théo Clément, par la façon dont ça s'est fait très rapidement, quelques jours, même si ça a dû être préparé un petit peu en amont, évidemment?
Alors, c'est une occasion que donc le dirigeant sud-coréen Moon Jae-in pouvait difficilement se permettre de rater, dans la mesure où, avec les Jeux Olympiques prévus pour le mois de février, négocier un minimum de paix et de stabilité dans la péninsule à l'approche des Jeux était plus que nécessaire. Kim Jong-un et les Nord-Coréens ont réussi à faire des propositions sud de manière suffisamment intelligente, en séparant bien la question des Jeux Olympiques et des relations Nord-Sud et la question de la bombe atomique et des relations avec les États-Unis. Donc c'est à la fois un beau coup pour Moon Jae-in et un beau coup pour Kim Jong-un, donc tout le monde s'entend et donc c'est assez normal que les choses avancent vite.
Alors est-ce que ces résultats sur les Jeux Olympiques, sur le rétablissement de la communication militaire, est-ce qu'ils sont si importants ou est-ce qu'on est surtout dans le domaine de l'affichage pour pouvoir parler d'autres choses un petit peu plus tard, Marianne Perrondoise?
Oui, il est certain qu'il y a une question de visibilité et que chacun des deux protagonistes va faire le maximum de communication autour de l'événement. On a quand même vu la délégation nord-coréenne passer à une centaine de personnes, alors qu'il y a à peine une dizaine d'athlètes qui vont effectivement participer aux Jeux. Donc on imagine que le régime nord-coréen va tirer le maximum d'images pour se montrer sous un jour, on va dire, plus sympathique que d'habitude. Donc on peut s'attendre au maximum de bruit, à la fois de la part de la Corée du Sud et de la part de la Corée du Nord autour de l'événement.
Alors, c'est de la communication ou est-ce que on va aller plus loin, on va essayer d'aller plus loin, on va juste faire baisser la tension le temps des Jeux Olympiques, Théo Clément?
Alors, pour l'instant, l'objet des négociations, c'est essentiellement les Jeux Olympiques. Donc, on est sur de la diplomatie, qui est la diplomatie sportive, de la diplomatie culturelle et surtout de la diplomatie du petit pas. C'est envoyer des pom-pom girls, c'est tel nombre d'athlètes, c'est ce genre de choses. Par contre, il est intéressant de noter que les négociations côté nord-coréen ont été entamées par l'envoi d'un négociateur qui est un monsieur qui s'appelle Ri Song-kwon et qui est un ancien colonel de l'armée nord-coréenne et qui était un négociateur militaire pour le Nord. C'est un monsieur qui est bien implanté dans ce qu'on appelle la commission diplomatique de l'Assemblée populaire suprême. Donc un organe diplomatique mystérieux, mais il semble-t-il important, et il est donc plus que probable que au-delà des Jeux Olympiques, les Nord-Coréens essaient de tenir langue ou de lier des contacts avec le Sud qui pourraient déboucher sur d'autres avancées en fonction du comportement sud-coréen et en fonction du comportement américain surtout.
Marianne Perrandois, c'est quoi le but ultime de Kim Jong-un avec ces discussions? Que recherche-t-il?
Mais en fait,
en vrai, si je puis dire.
Oui, en fait, il y a plusieurs séquences qui vont s'ouvrir. Il y a la partie de l'épisode sportif, mais l'enjeu, c'est la reprise de relations intercoréennes. C'est pour ça que d'ailleurs, nous avons deux spécialistes de part et d'autre de ces questions, puisque du côté du Sud, on a le ministre de l'Unification. Dans toute la stratégie consiste à entretenir un certain nombre d'études, de présentations, pour montrer sous quel angle, de quelle façon, on pourrait améliorer les relations entre les deux pays et éventuellement procéder à une réunification. Alors ça, c'est le mot magique.
Ça, c'est un horizon quand même un peu lointain, quand même.
C'est un horizon lointain, mais c'est quand même une thématique politique et un concept qui revient régulièrement dans les discussions entre les deux pays, parce que au fond, ce sont des pays frères, on a tendance à l'oublier, et que quelque part il faudra bien trouver une situation à cette division pérenne de la péninsule coréenne. Alors ce ne sera peut-être pas effectivement la thématique qui va être évoquée, mais la reprise de relations intercoréennes, c'est un vrai dossier, et c'est un dossier qui comporte des dimensions, je dirais, humanitaires, qui pourraient être facilement mises en œuvre.
Alors, il y a une dimension économique aussi, Théo Clément. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on reparle de la zone économique spéciale de Kaesong?
Alors, c'est un des enjeux. Moon Jae-in, dès son arrivée au pouvoir...
Le rappel pour les auditeurs, qui est fermé depuis 2016.
Alors, il y a eu plusieurs rebondissements. Donc, la zone économique spéciale de Kaesong a été ouverte en 2002-2003, et c'est une zone économique donc qui est opérée à la fois par le Sud et par le Nord, où les entreprises sud-coréennes investissent, mais où travaillent des petites mains nord-coréennes. Cette zone a été fermée en 2017 par la Corée du Sud, par l'administration conservatrice, mais après, à la suite de l'élection de Moon Jae-in, donc, qui est un démocrate, donc plutôt partisan du dialogue avec le Nord, plusieurs plans de coopération économique ont été imaginés par les fonctionnaires sud-coréens. Tout est tombé à l'eau du fait des essais nucléaires et des essais balistiques nord-coréens, mais aussi et surtout des sanctions onusiennes et des sanctions unilatérales sud-coréennes qui rendent très très compliqué les échanges économiques entre le Nord et le Sud. Et de fait, si le réchauffement actuel qu'on voit des relations entre le Nord et le Sud débouche sur les questions économiques, il faudra de toute façon reformuler et changer la nature des sanctions qui, de toute façon, à l'heure actuelle, empêchent toute coopération.
Marianne Perrandoise voulait réagir.
Oui, c'est que ce qu'il faut voir aussi, c'est que Kaesong est une expérience qui a quand même été, qui a duré 10 ans, donc plus qu'une expérience, certes, mais qui a été très critiquée en interne, parce que au fond, la question de la réciprocité s'est posée à un moment, et on a quand même eu l'impression que le système profitait largement au Nord, qui envoyait un certain nombre de travailleurs et qui récupérait très facilement des devises. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques scandales liés à des aides facilement dissipées par le Sud en direction du Nord, et qu'au fond, cette expérience de coopération économique n'a pas vraiment porté ses fruits, ne s'est pas vraiment développée et est restée quand même très très limitée, et a eu quelque part un côté très très artificiel.
Alors on a tendance à se focaliser sur le Nord parce que c'est un petit peu mystérieux forcément. Vu d'Occident, mais le Sud, qu'est-ce qu'il peut obtenir par ces discussions? Se rassurer, c'est quoi les objectifs? C'est la détente, c'est la paix, quoi, tout simplement.
Alors, il ne faut pas sous-estimer l'importance du nationalisme coréen, à la fois au Nord, mais aussi et surtout au Sud. Alors, c'est peut-être moins net dans le Sud de la Corée, qui connaît un développement économique, alors qu'il est inutile de mentionner, clairement, la jeunesse sud-coréenne se désintéresse progressivement. On le voit, les instituts de sondage font régulièrement des sondages sur la question de la réunification pour les jeunes, comment est-ce qu'ils voient le Nord, etc. Clairement, on a un fossé générationnel entre les gens d'un certain âge, les Sud-Coréens d'un certain âge, qui considèrent que la Corée est un pays qui est divisé, qui doit se réunifier, et des plus jeunes Sud-Coréens qui trouvent ça tout à fait de plus en plus normal et acceptable de se retrouver dans un système où le Sud est extrêmement développé, riche, et le Nord est fermé, mystérieux, ou sur lequel il serait difficile de s'informer.
Donc c'est une espèce de signal politique pour rappeler à la jeunesse que il y a cet objectif ultime de réunification.
C'est une victoire politique interne, c'est clair, surtout pour Moon Jae-in qui a été élu sur un programme de coopération avec le Nord et justement pour essayer d'alléger les relations bilatérales et de stabiliser l'ensemble de la péninsule qui, alors même si la question de la réunification se pose pas, la question du danger, la question de la menace et la question de la tension entre le Nord et le Sud pèse par contre sur toutes les générations au Sud.
Oui, parce que ça, on l'oublie parfois, Marianne Perrondoise, mais la vie politique sud-coréenne, elle est tendue également. Hein. Il n'y a pas que les relations entre les deux Corées.
Oui, bon, effectivement, on l'a vu l'an passé avec la démission spectaculaire, la procédure d'impeachment dont a fait l'objet Madame Park, donc qui a précédé l'actuel président Moon Jae-in. Quand la rue coréenne, je dirais, s'agite, vous aboutissez à cette mise en examen de la présidente, et donc ça a été tout à fait spectaculaire, mais intéressant du point de vue de la maturité, je dirais, politique et démocratique de la Corée du Sud, qu'on a su sans même d'être un régime un peu aux mains des grands conglomérats économiques, d'être un régime finalement géré d'une façon très très autoritaire, avec au fond des services de renseignement qui sont omniprésents et une certaine façon de considérer le Nord et de disséminer une forme de propagande, de grossir quand il le faut la menace nord-coréenne.
Alors il y a un éléphant dans la pièce, comme le veut l'expression américaine, et si j'emploie une expression américaine, c'est pas complètement par hasard dans ces discussions, et cet éléphant dans la pièce s'appelle Donald Trump, les États-Unis avec un discours martial, mais néanmoins, le report de manœuvres communes avec le Sud qui était prévu pendant les Jeux Olympiques, est-ce que l'un des principaux problèmes de cette discussion, c'est pas Donald Trump et les messages contradictoires qu'il envoie, Théo Clément?
Alors, Donald Trump et les messages contradictoires qu'il envoie, c'est le problème, et c'est pas seulement le problème des relations intercoréennes.
Oui, on en parle un peu.
Ça complexifie énormément les choses, c'est sûr. C'est fait justement partie de la stratégie nord-coréenne de diviser tout ce complexe des relations américano-sud-nord-coréennes en deux problématiques distinctes. Vous avez d'un côté les relations entre Pyongyang et Washington sur la question nucléaire qui concerne que ces deux États. Et vous avez d'un autre côté les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, la question de la réunification qui, dans l'optique nord-coréenne, ne peut se faire que de manière pacifique et indépendante. Et j'insiste sur l'indépendance qui est vraiment le mot-clé pour toutes les politiques nord-coréennes.
Marianne Perrondoise, cette différenciation entre les deux problèmes, est-ce que c'est déjà une sorte de petite victoire pour Kim Jong-un ?
Oui, il y a évidemment le souci de voir ce très habile jeune dirigeant instrumentaliser, je dirais, la proximité que le président Moon Jae-in a, et son souci effectivement d'enclencher une nouvelle dynamique positive dans les relations intercoréennes. Parce que jusqu'où peut-il aller vis-à-vis de son grand allié et partenaire américain? Jusqu'où peut-il aller vis-à-vis de son autre partenaire qui est aussi concerné par la crise nord-coréenne, le voisin japonais, qui a émis quand même de sérieux doutes sur le contexte.
Mais le Japon est sur une ligne dure, hein, quand
il
même.
Il est sur une ligne dure depuis le début, et on a même l'impression à certains moments que le premier ministre japonais Abe tient un peu la main de Donald Trump, et c'est effectivement sur la ligne des sanctions et sur vraiment la ligne d'un préalable qui est la dénucléarisation avant toute avancée. Ce qui, effectivement, selon la logique nord-coréenne, aurait tendance à tout bloquer. Donc, effectivement, les lignes rouges pour le président sud-coréen, elles sont nombreuses, et il faudra qu'il se montre très, très habile pour ne pas passer pour quelqu'un de très naïf.
Alors, je m'adresse aux spécialistes en stratégie que vous êtes. Est-ce qu'il est encore possible, comme c'est l'objectif des États-Unis et de leurs alliés, de dénucléariser le Nord, ou est-ce qu'il est trop tard, Théo Clément?
Alors, c'est pas seulement trop tard, ça a jamais été possible à mon sens. Et c'est certainement pas possible avec les sanctions et avec un Donald Trump qui ne pense qu'à mettre la pression sur la Corée du Nord, alors que c'est justement la mise sous pression de la Corée du Nord qui a engrangé la quête nucléaire des Nord-Coréens, qui ne date pas seulement de Kim Jong-un, qui ne date même pas de Kim Jong-il, donc son père, mais qui date de son grand-père.
Kim Il-sung.
Kim Il-sung, exactement. Or, justement, en Corée du Nord, la transmission dynastique du pouvoir fait que le successeur hérite sa légitimité politique de son père, ou du moins de son prédécesseur. Et de fait, si Kim Jong-un revient sur la bombe atomique, il commet ce qu'on appelle un suicide politique. C'est-à-dire qu'il se tire littéralement une balle dans le pied, il perd toute crédibilité en interne.
Alors, cette question de la dénucléarisation, Marianne Perrondoise, vous êtes d'accord avec l'analyse? Il peut pas faire autrement, il peut plus reculer.
Et j'irai même plus loin, c'est que de toute façon, cette dénucléarisation, elle a pour arrière-plan ou pour condition, dans la logique du régime, cette dénucléarisation potentielle, des garanties de sécurité. Et les garanties de sécurité, on voit bien en quoi elles peuvent consister, une réduction, voire une disparition de la présence, une réduction, une diminution de la présence militaire américaine en Corée du Sud. Puisqu'au fond, c'est cette présence, le déroulement de nombreux exercices entre les forces américaines et sud-coréennes qui entretiennent ce dilemme de sécurité apparemment du côté nord-coréen. Donc on voit que finalement, si Kim Jong-un paraît jouer le jeu et dit « Bien, nous voulons parler de dénucléarisation. Eh bien, moi, en échange, je veux des garanties de sécurité solides. » On voit bien que le dialogue va tourner court parce que même si on imagine que Kim Jong-un ne tient pas à abandonner la bombe nucléaire, qui est la condition de sa survie politique, comme l'a fort bien fait remarquer Théo, en face, je pense que les Américains n'envisagent absolument pas de réduction de leur présence militaire dans la zone.
Alors, la dénucléarisation, c'est non. Les sanctions, on en a un peu parlé, c'est assez inefficace et même contre-productif. Qu'est-ce qui reste? La négociation, l'option militaire conventionnelle, Théo Clément?
Alors, l'option militaire conventionnelle a été évoquée plusieurs fois. Elle, c'est une conception qui me semble extrêmement problématique. Et à mon avis, il y a peu de risques qu'on en vienne véritablement aux mains dans la péninsule, sachant...
Il y a une vraie bonne armée en Corée du Nord.
Alors, il y a une bonne armée en Corée du Nord, mais c'est pas... D'un point de vue militaire, il faudrait demander à Marianne qui s'y connaît bien mieux que moi, mais il est fort probable que de toute façon, même l'armée nord-coréenne, si pléthorique soit-elle, ne résiste pas très longtemps à une coalition américano-sud-coréenne. Par contre, Séoul, donc une métropole gigantesque comme il y en a en Asie, est située à 40 km de la frontière nord-coréenne et pourrait très facilement être rasée par l'armée nord-coréenne.
Alors, ça a été démontré, d'ailleurs, il y a eu des bombardements d'îles, notamment. Il y a une vraie capacité conventionnelle de destruction, Marianne Perrondoise.
Oui, avec toutes les batteries d'artillerie nord-coréennes qui sont déployées de l'autre côté de la frontière. On le sait, et c'est ce qui a arrêté jusqu'à présent, et continue d'ailleurs d'arrêter, je dirais, les plans éventuels d'attaques préventives de stratèges américains. Eh bien, il y a des dommages majeurs qui pourraient être faits à la ville de Séoul. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir finalement recours à des frappes différentes. Donc voilà le dilemme et voilà pourquoi finalement depuis des années le statu quo perdure sur la péninsule coréenne et voilà pourquoi on a une nation qui reste divisée. Mais il faudra bien historiquement accepter d'en sortir, avoir le courage d'en sortir. Alors est-ce que c'est le président Moon Jae-in qui aura des initiatives heureuses? Je pense qu'il y a une question de temps et le temps nous est compté.
Absolument. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Marianne Perrondoise, chercheuse à l'IRSEM, et Théo Clément, également chercheur à l'École Normale Supérieure de Lyon. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et Valentin Vanner ce soir à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.